Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Ghostbusters. It's legal! Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Are you a guy? Bonne écoute. I think he can hear you, Ray. Don't move. It won't hurt you. Bienvenue à Somerville. Aujourd'hui, on parle de SOS Fantôme, l'au-delà, sorti en 2021 et réalisé par Jason Reitman, avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace et Paul Rudd. Je suis Mathieu et non, je n'ai pas dépassé l'ère du VHS. Alors, re-bienvenue dans la rétrospective des Ghostbusters. Cette semaine, on est en train de revenir en arrière, rétrospective là, que j'ai commencé là, il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi dans le fond, puis qui va s'achever là, dans le fond la semaine prochaine, où on va parler du nouveau film, le cinquième film dans toute cette rétrospective-là. La franchise des Ghostbusters, c'est ça, dans le fond, là, on fait le film là, juste avant là, qu'il est sorti là, en 2021. Ça n'a pas été toute une histoire facile pour se rendre au film d'aujourd'hui. Si on recule, mettons, au film là, de 89, Ghostbusters 2 ou SOS Phantom 2, dans le fond, on avait essayé de faire un troisième film plusieurs fois au travers. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois quand j'ai parlé du film de 2016. Puis peut-être que vous n'avez pas eu envie d'entendre ce que j'ai à dire sur le film de 2016, parce que j'ai quand même donné quelques compliments aussi. Tant qu'à moi, c'est des compliments mérités. Je trouve qu'on est rentré quand même beaucoup contre le film là, facilement. Pourtant, c'est quand même correct là, comme version théâtrale, bien sûr. Mais c'est la version l'extended cut là, de ce film-là. Là. Vraiment pas recommandé. Mais la version théâtrale, je l'ai pas en 100% endossé, mais en tout cas, vous pouvez toujours retourner en arrière là, si maintenant vous avez des doutes de où ce que je viens là, là-dessus, là, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus. C'est ça. Fait que si on se reporte là, à Ghostbusters 2, dans le fond, là, le deuxième film. On voulait quand même faire une suite. Bill Murray, dans le fond, sa carrière, c'est pas mal à cause de Bill Murray, dans le fond, qu'on a eu là, le dit reboot, puis que tout était rallongé. Au courant des années, Dan Aykroyd, il y a plusieurs personnes qui ont réécrit là, beaucoup là, des scénarios, on a refait là, des scénarios. J'en ai parlé la dernière fois, où ce que on a un film là, qu'on a failli qui a été transformé sensiblement là, dans le jeu vidéo là, de 2009 je pense, puis qu'on a pris les éléments dans le fond, qu'on l'a fait il faudrait que je le joue ce jeu là pour le fun là. Je l'ai en deux formats, je l'ai sur ma Wii, ma Switch, puis je l'ai sur je pense ma Play 4 là, puis je l'ai pas je sais pas j'ai juste pas eu le temps ou je sais pas, j'ai pas eu à 100% d'intérêt dans le fond là, de retourner là, dans un jeu là, de 2009, là, faut croire. Là. Mais c'est ça, dans le fond, pour le jeu pour le film de l'au-delà, c'est ça, on a eu le film de 2016. Dans le fond, on a eu plusieurs écritures, Bill Murray ne voulait pas. Ça semblait se concrétiser, puis Bill Murray commençait à être enthousiaste, faisait qu'il était il était pas tout à fait d'accord finalement à la dernière seconde. Dans le fond, on niaisait, dans le fond, on étirait, parce que lui, ça ne tentait pas. Il faut le dire là, en bout de ligne, là, cette franchise-là, quand il apparaît, là, ça y tente pas. C'est malheureux à quelque part. Dans le film de 2016, d'après ce que je peux comprendre, on l'a reculé au pied du mur, puis on a dit là, dans le fond, on était en train là, d'empêcher. On l'a poursuivi, dans le fond. Là, on était sur le point de le poursuivre, dans le fond, parce que lui, il a quand même son mot à dire, puis il est toujours en train de retarder la production, puis tout ça. Fait que, pour ça que, dans le fond, on a fait le reboot de 2016, puis finalement, ben, les critiques ont tombé dessus, là, le film de 2016. Fait qu'on a décidé d'en revenir en arrière, puis juste avant la sortie du film de 2016, je sais pas si ça l'a impacté aussi, là, le fait qu'on continue pas là, dans l'univers. Tu sais, tout ça ensemble, là, je pense que je n'en ai pas parlé la dernière fois, mais le fait que Harold Ramis soit décédé là, en 2014, puis qu'on aille dans une autre direction, est-ce que ça l'a, tu sais, comme un peu aidé à ça? Je penserais peut-être que oui, parce qu'on parlait plus d'un film, d'un troisième film jusqu'à là, puis là, ben, tout d'un coup, on s'est mis à parler d'un reboot, puis finalement, ben, tu sais, avec... c'était pas un échec, là, le Ghostbusters de 2016, c'était juste pas au... C'était pas comme les attentes, là, ils ont pas réussi là, à les atteindre. Mais c'est ça, fait que on arrive où ce qu'on a décidé là, de finalement retourner aux sources, essayer de faire un propre Ghostbusters 3. C'est ça, fait que dans le fond, ça s'est quand même assez concrétisé rapidement à partir là, de là. Puis c'est plate rendu là parce que on va penser à Harold Ramis qui est décédé. Tu sais, dans le fond, pendant toutes ces années-là, qui a quand même un peu travaillé, il y a un bout où ce que Dan Aykroyd et Harold Ramis se sont assis sur un script et puis l'ont réécrit ensemble comme qu'ils faisaient là, sur les deux autres scripts du premier et deuxième film. Tu sais, il y a tout ça, puis que finalement, ben, que M. Ramis nous a quittés, puis que finalement, ben, c'est ça, tu sais, c'est arrivé trop tard, rendu là. Fait que là, tu sais, on est un petit peu peut-être en rattrapage avec le film aussi, tu sais, on va en parler là, tantôt là, avec les choix là, qu'on va choisir dans le film, là, de les côtés histoire. Mais c'est ça, fait que finalement, ben, tu sais, je le répète, là, c'est à cause de Bill Murray qu'on se ramasse si loin que ça. Après le deuxième film, puis finalement, ben, tu sais, est-ce qu'il veut vraiment être là? T'sais, en tout cas, on va en parler là, vers la fin du film, là, dans le fond, là, dans à peu près 1h20, là, quelque chose de même. Là, mais c'est ça, tu sais, honnêtement, c'est ça, on va en parler tantôt, puis surtout pour la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va donner pour le nouveau film? Alors, selon IMDb, voici le synopsis assez étendu. À court d'options d'argent, Cali, mère célibataire, met les pieds dans la petite ville de Somerville, Oklahoma, avec ses deux adolescents, Phoebe et Trevor. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible, alors que la famille tente de s'installer dans la maison délabrée du défunt père excentrique de Cali. Des secrets inattendus cachés à la vue de tous, un équipement mystérieux et un étrange véhicule pourrissant dans la grange semblent liés à l'activité sismique déroutante de la région. Et quelque chose d'encore plus choquant, l'incident oublié depuis longtemps de Stay Puft Marshmallow Man dans les années 80 à New York, mais il n'y a pas eu une seule observation de fantôme depuis les événements bizarres de SOS Phantom 2. L'histoire se répète-t-elle? Phoebe se retrouve en lien, donnera-t-elle une voix à son grand-père et découvrira-t-elle le lien de la famille des SOS fantômes original? Ok. Je sais pas pour la fin du synopsis, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a offert sur IMDb, puis c'est la seule synopsis que j'étais capable de trouver assez rapide. Mais c'est ça, fait que ce film-là, dans le fond, là, on va jouer pas mal sur la nostalgie tout au long. On va essayer de... On fera pas un reboot, pas un remake, mais tu sais, on va être fortement influencé là, par le film original de 1984. Tu sais, on va vouloir l'apporter. Tu sais, c'est un peu ce qu'on fait là, avec comme les films comme Rocky et Creed. Tu sais, dans le fond, on essaie de comme... C'est plus un spin-off. T'sais, je pense que c'est pas mal la meilleure manière d'appeler ce film-là aujourd'hui. C'est un spin-off de la manière que Rocky et Creed ont fait là, leur spin-off. On ramène quand même Rocky dans la franchise Creed. Puis un peu comme qu'on va faire, ben, t'sais, les événements là, de 1984 ainsi que les personnages de 1984 et 1989 vont faire leur apparition. On va comme un peu continuer. Là, t'sais, c'est un legacy sequel si on veut. Puis c'est ça qu'on va faire en tant que tel. Puis bien sûr, ben, on va peser le citron, là. On va le presser en masse, là, le citron de nostalgie. Ça va être pas mal ça qui va définir le film. Puis c'est pas mal juste ça, là, sans autre pensée, là. Puis ça, c'est pas de la méchanceté, là. Je veux dire, les deux autres films là, étaient pas fondés sur d'autres choses, mais c'est ça qu'on va faire, là, surtout avec comme le passage, là, ben, l'acteur, le Harold Ramis, qui est parti. T'sais, on va célébrer ça un peu dans tout ça. Chose qu'on n'a pas vraiment fait, là, à part un genre de clin d'œil à M. Ramis, là, dans le film de 2016. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça. T'sais, on va comme un peu là, pas le vénérer, mais c'est ça. On va célébrer, là, dans le fond, là, la vie de l'acteur, là, d'une certaine manière, là. Alors, ouais, dans le fond, mon point de vue en rentrant dans le film aujourd'hui, ben, c'est pas la première fois que je le vois, là. Dans le fond, c'est pas la première fois que je le couvre aussi, si vous me suivez sur le podcast de Christophe. On en a parlé, là, on a mesuré, là, ce film-là versus ce film maléfique ensemble. Et The Ghostbusters 2016, puis dans le fond, ben, c'est ça. Aujourd'hui, je ne vais pas répéter la même affaire que j'ai dit, là, me semble, là, dans le podcast à Christophe. Mon point de vue a changé quand même. J'ai eu le temps de prendre un peu de recul. Initialement, ben, je vais vous donner en sommaire, là, qu'est-ce que je pensais, là, avec Christophe, ou à l'époque, j'ai trouvé que le film était. Ben, tu sais, j'avais quand même aimé le film de 2016, comme que dans le fond, là, je le respecte un peu, là, comme j'ai parlé au début de l'épisode aujourd'hui, mais je trouvais qu'on avait juste forcé, là, la note nostalgie, là. Puis je vais en parler aujourd'hui aussi, là, que, tu sais, est-ce qu'on est en train de jouer juste sur nos cordes sensible, ou est-ce qu'on voulait vraiment faire un film honnête? Mais chose que, tu sais, j'ai pu prendre un petit peu plus mon recul, là, sur cette partie-là, là. À l'époque, là, je trouvais vraiment que c'était le côté nostalgique un petit peu trop. Puis, tu sais, dans le fond, pour en pesant le piton, ben, c'était pour avoir, là, la faveur du public, là, si on veut, là. Fait que c'était ça un peu. C'est pas que je préférais le film de Ghostbusters, mais je trouvais juste que finalement on s'est retourné parce que le film de Ghostbusters 2016, il était mal reçu. Puis là, tout d'un coup, ben, on se dit, bon, ben, il a été mal reçu. Fait que là, finalement, ben, tu sais, on s'en va dans une autre direction. Puis je trouve que c'est pas nécessairement la bonne raison honnête pour faire un film. Tout simplement. Là. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a aucun rapport comme avec M. Murray, que lui, il veut pas embarquer dans le film. Mais, tu sais, lui, il veut pas embarquer, puis il a pas le cœur, puis je trouve que là, on arrive, puis on va forcer le système pour ça, dans le fond. Mais, tu sais, on mettra pas M. Murray à l'avant-plan, fait que c'est peut-être une bonne affaire rendue là, de pas l'avoir en avant-plan, puis justement, de partir ailleurs, mais bon. Fait que ça, c'était mon sommaire pour Fantastica. Puis c'est sûr, ben là, en ayant pris du recul, ben, il y a y a des affaires que j'ai pu voir, plus apprécier le film, là, comme qu'il est. Fait que peut-être donner une autre aperçu du film. Fait que le film commence où ce qu'on a, le personnage de Egon, dans le fond, là, interprété, là, par... Il y a des fois dans le film, il va être interprété, là, par Ivan Reitman, là, le réalisateur des deux premiers films. Puis un autre monsieur, là, j'ai pas noté son nom, là, mais tu sais, dans le fond, il est fait par des trucages de caméra, puis du CGI, puis tout ça. Fait qu'on on l'a monté, dans le fond, là, pour l'amener à l'écran. T'sais, on va faire déjà un petit peu des clins d'œil. On va répéter, là, des scènes du premier film, là, comme qu'on avait Dana Barrett, là, qui était dans le sofa, puis il y avait des mains qui sortaient partout. Rapidement, ben, t'sais, on va voir les gros chiens, là, je me rappelle pas le nom que j'avais donné, là, je pense que j'avais un nom spécifique, là, mais je ne les ai pas renommés, à renoter pour le pod d'aujourd'hui, mais tu sais, qui apparaît comme en fantôme là, en arrière là, de Egon, puis on va comprendre assez rapide là, qu'il se fait tuer. C'est quasiment comme la première mort qu'on a dans la franchise des Ghostbusters. Quand on pense à ça, tous les personnages ont été menacés, ils ont été en danger de mort, mais là, on va vraiment le tuer. Bon, tu sais, je sais pas. Tu sais, je comprends qu'on veut arriver avec Egon, ben, ou Harold Ramis. Il est décédé, puis tu sais, on aurait pu arriver, puis juste dire qu'il est sur son voyage paisiblement, puis tu sais, en tout cas, telle autre affaire, tu sais, il aurait pu faire ça. C'était une manière d'aller de l'avant avec. Là, c'est sûr que ça fait... On veut l'impliquer, dans le fond. T'sais, on va faire l'histoire, dans le fond, alentour là, de Harold Ramis, rendu là avec son personnage. Puis, je pense que c'est un bon choix. Je vais dire ça là, de même. Là, je pense que de faire ça, on va arriver, on va tout cadrer alentour de ça. C'est la mort, dans le fond, d'un des créateurs de la série. Puis, on va jouer avec ça. Fait que c'est correct que je vais jouer avec ça. Je veux dire, comme j'ai dit, j'ai pris du recul. Puis c'est un choix intéressant. Puis de le garder proche. C'est pas juste comme une note qu'on dit là, quelque part, là, comme à la toute fin du film, là, on marque pour Harold, puis c'est tout, qu'on arrête ça là. Tu sais, vraiment, comme on l'implique, comme s'il était là. Tu sais, il y a la fille là, de M. Ramis qui était justement un peu impliquée, là, pas 100% dans la production, mais tu sais, pour donner sa bénédiction, elle s'est pointée sur le set une couple de fois. Il y a des photos qui existent de elle qui va porter là, le suit de Ghostbusters de son père. Puis ça fait de même, là. Fait que, tu sais, c'est juste pour qu'on ait quand même un sens que ça s'est endossé, là. Puis en ayant ça, je pense que ça passe mieux la pilule, dans le fond, là. Tout simplement. Mais tu sais, on aurait pu arriver puis carrément faire autre chose, comme j'ai dit. Mais c'est beau, c'est un choix intéressant de l'amener. Tu sais, on le voit pas là, dans les scènes, là. On le garde dans l'obscurité puis tout ça. Mais ce qui est plate, là, c'est surtout quand tu le revois. Là, je suis pas sûr de l'avoir vraiment remarqué la première fois. Mais tu sais, j'avais remarqué, là, bien sûr, là, les mains qui sortent du divan, mais... Je me suis dit, c'est comme juste un clin d'œil. Je pensais pas qu'on allait aller là, vers l'histoire, là, dans le fond, une continuité directe du premier film. Je savais que le film allait être une continuité du premier film, puis qu'on allait pratiquement là, ignorer le deuxième film. Mais pas au point là, de juste... En tout cas, je savais qu'on était une suite du premier film, là, puis que c'est ça qu'on se concentrait, mais... Pas dans le fait qu'on allait vraiment ramener là, Gazer un peu plus tard dans le film. Fait que, c'est ça. Fait qu'on peut voir, dans le fond, le fantôme là, de M. Egon là, qui se promène là, dans les champs et qui va disparaître. Puis, tu sais, on peut voir quand même l'esthétique, tu sais, est plus moderne, bien sûr. Là, mais, tu sais, on fait ça un petit peu plus là, d'un côté... Là, ben, tu sais, je veux dire, c'est comme il a continué à quand même inventer des gadgets, puis tout est rendu un petit peu plus gros. Tu sais, toute sa terre au complet, on voit là, qu'il y a une. Que c'était comme une grosse trappe, là, on va en reparler un peu plus tard, là, mais. Puis que là, c'est tout concentré un genre là, de gros transformateur à côté, puis que finalement son transformateur lâche. Fait que, tu sais, c'est comme plate, un peu pareil, que dans le fond, le fait qu'il va mourir, c'est juste parce que il y a un transformateur qui a lâché, puis c'est ça, dans le fond. Là, c'est pas, il a pas trouvé quelque chose pour. C'est un petit peu. D'un côté, on pourrait regarder ça que c'est un petit peu... Pas banal, mais c'est une manière... Il meurt pas héroïquement, mettons. Là. Tu sais, c'est plus ça. C'est comme il a juste... il a été overpowered, dans le fond, là, tout simplement. Puis que Gozer a pris le dessus sur lui. Là, puis finalement, ben, tu sais, il est... il a rendu l'âme, mais son âme, ben, c'est ça, on voit que finalement, là, il reste errant, dans le fond. Puis qu'il reste errant, c'est quand même étrange, pareil, là, de le garder, là, puis qu'il va se promener, là, mais c'est ça, dans cet univers-là, on peut avoir ça, mais tu sais, je veux dire, on ouvre la porte tout de suite, puis on le sait, là, puis il va juste rester là tout le long du film, là. Fait que c'est là qu'on est introduit là, au personnage de la mère là, de pas la mère mais t'sais, la famille là, le personnage de Callie qui a deux enfants dans le fond qui est la fille de Egon là, que elle l'actrice là, Carrie Coon, vous avez peut-être vu là, dans Gone Girl là, avec Ben Affleck et son nom m'échappe, là, joué dans Die Another Day, là, Rosamund Pike. Vous l'avez peut-être vu aussi là, dans Avengers Infinity War. Puis, c'est ça, en tout cas, je veux dire, actrice que j'ai jamais vue là, auparavant. Elle, dans le fond, j'essaie de comprendre pendant tout le film, elle est née quand? Es-tu née après Ghostbusters 2, avant Ghostbusters 1? Il y a comme des photos de 1983, je veux dire, on voit ça un petit peu plus tard, là, il y a quelque chose qui est marqué 1983. Fait que, si je peux bien comprendre, elle serait née avant le premier film, en tout cas, c'est pas très clair. L'actrice elle-même est née en 1981, mais je sais pas. T'sais. Puis si Maton est née après le deuxième film, là, en 1990, Maton, là, ben ça y donne quelque chose comme ben ça n'a pas de sens avec les enfants tout simplement tu sais que son garçon qui a 15 ans là, dans le fond on est rendu on part de 89 mettons qu'elle est née en 90 elle a eu un enfant à moins qu'elle ait eu un enfant à 15 ans mettons elle l'aurait eu en 2005 puis ouais, ça, en tout cas en 2005 puis c'est ça dans le fond elle aurait eu son garçon puis il aurait eu 15 ans là, en 2020-2021 quelque chose de même c'est possible c'est dans le royaume du possible là, je sais pas si maintenant on va continuer pour montrer c'est qui sa femme je sais pas si c'est insinué aussi que peut-être c'est Janine Melnitz, la secrétaire, si c'est elle qui pourrait être la mère, non, ça pourrait pas, parce qu'en bout de ligne, il y aurait eu une genre de ben, il serait parlé, là, dans le fond, parce que là, c'est ça, on a aussi, là, elle, Callie, c'est ça, elle a de la misère à payer le loyer de son appartement. Finalement, elle se fait mettre en dehors de son appartement, mais elle hérite quand même là, de la maison de son père. Puis c'est sûr, quand elle arrive à la maison de son père, ben là, il y a Janine qui est là. Puis je veux dire, dans le fond, qui fait un caméo. Je pensais peut-être qu'on allait la revoir un peu plus tard, mais en tout cas, je sais que la semaine prochaine, on va la voir en masse, là. Mais ce soir, en tout cas, honnêtement, là, je veux dire, c'est une manière de l'apporter juste en caméo, puis c'est correct, là, c'est juste que je trouve qu'on aurait pu quasiment faire quelque chose de plus avec ce personnage-là, puis cette actrice-là, parce que, je veux dire, elle est encore active aussi comme actrice, là, on ne sort pas de la retraite. Ses deux enfants, dans le fond, là, on a Mackenzie Grace, que elle joue, McKenna Grace, excusez, elle joue dans. Elle a joué dans Les Feux de l'amour. Dans le fond, c'est une actrice, là, je pense qu'elle a 15 ans là, à l'époque qu'on tournait là, le film. Puis elle avait joué dans pas grand-chose, dans le fond, là, je pense un show là, sur Disney, puis tout ça. Puis, fait que finalement, on l'a pris là, pour le film d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, le film repose pas mal sur ses épaules. Puis. L'important, je pense que est-ce qu'elle est capable de le prende? Puis honnêtement, je vais le dire, là, si c'était pas d'elle, je pense que le film ne marcherait pas. T'sais, je veux dire, en tant que tel, là, c'est le cœur de ce film-là, je veux dire, est très importante au film. Puis, si maintenant on l'aurait. Parce que c'est elle qui fait évoluer l'histoire. On a son frère, là, Finn Wolard, là, qui fait le personnage là, de Trevor, là, que vous avez peut-être vu là, dans Stranger Things. Lui, il est important, mais tu sais, dans le fond, il est vraiment secondaire. Là, il n'y a pas de. T'sais, il arrive, puis il y a une histoire là, où il essaie de se placer dans la vie, puis. Avec sa mère, là, ils vont dans un restaurant, puis ils rencontrent une fille, là, Lucky, qui est jouée par Celeste O'Connor, que vous avez peut-être été une des cinq personnes là, à aller voir Madame Webb. Là, du coup, moi, je ne l'ai pas vue encore, là, mais elle joue là-dedans. Mais tu sais, on essaie de trouver une petite histoire, dans le fond, là, juste pour peut-être pour balancer là, les un homme, une femme, tout ça. Quelque chose, dans le fond, que je parlais un peu là, quand je parlais de Ghostbusters 2016. Là, je veux dire, on peut arriver et juste faire un mélange, pas obligé de partir dans un extrême, de juste mettre quatre filles, tu sais, on juste mélanger les affaires. C'est ça qu'on va faire un peu aujourd'hui. Plus tard, on va voir le personnage là, de podcast qui est un... comment on dit, là... un associé, peut-être, je sais pas, tu sais, je veux dire, dans le même domaine que moi, mais c'est ça qui fait son balado, qui va être le fun aussi. Dans le fond, c'est quasiment eux autres qui sont les plus importants là, dans ma manière de voir le film, puis en guillemets, là, ce jeune couple-là, ben, et c'est ça qui amène tout le film. Là. On va placer le personnage de Paul Rudd, là, qui est le professeur d'histoire, je ne sais pas trop quoi, c'est même pas important dans le fond quel genre de professeur qu'il est. Lui, il arrive, il vient en dehors dans le fond, puis c'est un séismologue ou quelque chose de même. Puis au lieu de donner sa classe, il va mettre un VHS là, de Cujo. Plus tard, il va mettre... je ne sais pas c'était quel jeu d'enfant, là, je pense que c'est le deuxième. Puis, tu sais, dans le fond, il fait pas sa job, il est juste en train, dans le fond, de s'informer là, sur tous les séismes alentours. Mais c'est ça, tu sais, on a deux têtes, deux adultes, dans le fond, là, des têtes d'affiche, si on veut. Là, on a Carrie Coon, que j'ai jamais vu avant, là, dans le fond. Puis Paul Rudd, qui est, dans le fond, le dernier du générique principal, qui vont soutenir le film, mais qui sont tellement pas importants au film. Dans le fond, là, ils ont essentiellement là, le rôle là, de Sigourney Weaver dans le premier film là, et de Rick Moranis. C'est pas eux autres qui font l'histoire, sont vraiment comme pas figurants, mais ils sont juste de soutien. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, moi j'embarque avec tous ces personnages-là. Dans le fond, là, je veux dire, je les aime tous en tant que tels. Ils sont tous. C'est sûr que ça peut casser. Là. Si maintenant il y a un personnage là-dedans qu'on n'aime pas, surtout le personnage là, de Trevor ou de Phoebe, là, le personnage là, de McKenna Grace, s'il y en a un qu'on n'aime pas, je veux dire, dans le fond, on n'aimera pas le film. Je suis pas mal sûr là, là-dessus. Ça va nous tomber ses nerfs. Si on est très pressé de voir tous les anciens Ghostbusters, ben, je veux dire, on va falloir prendre son mal en patience. Parce que ça va aller très loin. Puis c'est ça, fait que là, il faut embarquer. Puis tu sais, là, je me rappelle la première fois que j'ai écouté le film, j'étais là comme ça a l'air d'être la fille à Egon, mais je suis pas trop sûr. Tu sais, la réécoute. Aide beaucoup, là, savoir que c'était vraiment Egon au début. J'étais comme pas certain que c'était Egon au début. Là, on le réécoute, ok, c'est beau, c'est bien Egon au début. Puis, dans le fond, on fait juste nous agacer tout le long. Ça va prendre quelque chose comme à peu près 40 minutes là, avant que finalement on ait vraiment la confirmation que c'est Egon, son grand-père, dans le fond. Moi, je me trompe, excusez. 40 minutes, c'est lourd. Ce qu'on va savoir plus que c'est l'histoire est confirmée sur Gazer. Hein. Ça prend. Je ne l'ai pas noté ici, mais ça prend quand même vraiment un bon bout là, pour confirmer là, que c'est Egon. Puis c'est, on veut jouer avec ça. Je veux dire, est-ce que c'est la fille à Venkman? C'est très évident que c'est la fille à Egon, mais. On veut pas nous le dire. C'est tout simplement. T'sais, on est là comme c'est-tu elle, c'est-tu pas elle. T'sais, on voit avec les lunettes, les affaires de même. On veut jouer avec ça. Ça a le plus de sens que c'est sa fille parce que juste les vraies choses qui se sont produites, là, que Harold Ramis est décédé, tout ça. Fait que c'est correct, là. Mais. Ils nous niaisent avec ça un petit peu là, tout le long là, du début du film. Mais c'est ça. Fait qu'on a le personnage là, de Paul Rudd qui se rajoute aussi juste en arrière de tout ça. Puis le personnage là, de podcast que lui, c'est ça, lui, il est à l'école avec Phoebe. Puis tu sais, elle, je sais pas, elle a comme un petit côté autiste où ce que tu sais, elle a comme pas de sens de l'humour d'un côté, mais elle va sortir des fois des blagues là, qui sont plates, là, mais tu sais, je veux dire, comme évidentes. Puis je pense que c'est ça qui fait un petit peu son charme, quelque part, qu'elle fait juste comme être pas là, là, tu sais, un peu, puis elle est comme un peu déconnectée, mais en même temps, ben c'est ça, tu sais, elle est comme pas remplaçante de Egon, mais ça serait comme le personnage qui ressemble le plus à Egon en bout de ligne, là, le plus le personnage peut-être intellect, puis que aussi Egon, ben ici aussi, il est un petit peu étrange comme personnage. Fait que, on a personnage là, de Phoebe et de podcast là, que, dans le fond, ils apprennent à se connaître. Éventuellement, podcast amène Phoebe, là, pour une raison ou une autre, là, il l'amène voir des genres de ruines qu'éventuellement va être comme où ce que Gozer va renaître comme par hasard. Il y a peut-être un peu de trop par hasard qui arrive là, mais tu sais ça, tu sais, on va comprendre là, que c'est pour ça que Egon s'est installé là pour le retour là, de Gozer. Je me dis, ben, ce que je lisais aussi, là, c'est pourquoi qu'on avait choisi là, de ne pas aller à New York dans l'épisode aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait faire plus un film familial. Puis, tu sais, j'approuve ça en tant que tel, de ne pas aller à New York. Je pense que ça aurait comme un peu ramené aux trois autres films. Puis, tu sais, je pense que le fait qu'on ramène ça en campagne, puis, tu sais, qu'on est plus concentré sur les personnages, je trouve que ça fait plus petit, ça fait moins grandiose qu'est-ce qu'on avait vu dans le fond là, dans le film de 2016, même le film, les deux autres films là, puis même le deuxième là avec la Statue de la Liberté à la fin et tout ça. Mais je trouve que ça met ça plus simple, plus puis on se concentre plus sur les personnages, puis je trouve que c'est un très bon choix. Fait que eux autres, c'est ça, ils font juste comme présenter l'endroit là, où ce que Gozer va renaître. T'sais, on a encore des clins d'œil avec les chiens qui sont comme en statue. Puis c'est ça, fait que finalement, Phoebe elle va retourner chez elle, puis elle va avoir comme un tableau un plateau d'échecs à côté de son lit, puis Egon va jouer avec elle pendant qu'elle dort. Tu sais, il va déplacer là, toutes les joueurs, en tout cas, je sais pas comment on dit ça, là, les jetons un peu partout, puis tu sais, dans le fond, on va comprendre là, comme sa maison est hantée par son grand-père. Tu sais, ça aurait pu être un esprit maléfique, quelque chose de même. Ça, cet aspect-là du film, là, je trouve que ça fait peut-être, je sais pas, ça me fait penser à Casper, genre, je sais pas trop, là, de Casper, The Friendly Ghost, là. Je sais pas, tu sais, ça me fait un peu, tu sais, le petit fantôme blanc, là, Casper. Je sais pas, j'ai comme pas l'impression à 100% d'être dans un film de Ghostbusters. Je trouve que, tu sais, on est en train là, de juste. Ou Ghost Dad là, avec Bill Cosby ou quelque chose de même. Tu sais, comme tout d'un peu là, une comédie avec. Tu sais, c'est vraiment étrange un peu là, comme idée. Mais ça va avec la thématique, mais on joue quand même. Tu sais, c'est étrange un peu là, dans toutes ces scènes-là. Puis, tu sais, plus tard, où est-ce qu'elle va trouver son atelier à Egon, puis, tu sais, elle va trouver toutes ses affaires, son habit de Ghostbusters. Tu sais, Egon va y pointer avec sa lampe, puis des affaires de même, là. Tu sais, c'est comme, quelque part, là, je trouve ça un petit peu. C'est trop, hein, quelque part. Oui, on a eu des fantômes dans les trois autres films, mais c'est comme. Les fantômes n'ont jamais été, ben, à part Slimer, dans le fond, qu'on verra pas aujourd'hui, là, mais, tu sais, on va, on fait pas, Je comprends qu'on veut amener Egon. Ça, je le comprends, mais tu sais, qu'il fait juste y pointer tout ça pour comme y donner là, une trace à suivre, quelque chose de même. Puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, on a Trevor, son frère, que lui, il a trouvé la Ecto-1, puis qui travaille dessus, dans le fond, sur toute la mécanique de la voiture pour qu'elle soit fonctionnelle. Tu sais, il y a une. Je me rappelle pas c'est quoi le gâteau qu'il y a là, dans le coffre à gants, là, qui doit être là depuis le début des temps, là. Probablement plusieurs années qu'il doit être rendu en train de moisir, là. T'sais, je comprends, c'est un clin d'œil au premier film, là, les Twinkies, quelque chose de même, là. Mais sauf que cette voiture-là n'a pas été servie depuis plusieurs années, là. Il est parti avec, qu'on va apprendre là, dans l'histoire de Ray un peu plus tard, là, mais tu sais, je veux dire, il l'a gardé là, dans sa grange, puis tu sais, je veux dire, c'est là depuis plusieurs années. Ça a comme aucune raison de vraiment être dans sa grange, mais bon. On va en parler tantôt, là, mais c'est ça, tu sais, il y a son frère, là, c'est ça, il est en train là, de juste remonter. Je suis rendu là, Hector est rendu super performante, là, on sent que c'est peut-être plus. Ben, ça va peut-être devenir un peu plus un sequel à The Real Ghostbusters, là, le show de comique qui passait dans les 80, peut-être plus que la suite là, de Ghostbusters 2, mais bon. Ou de Ghostbusters 1. Fait qu'on a éventuellement, là, ils vont trouver là, la fameuse trappe, puis ils vont amener ça à l'école, puis le personnage de Paul Rudd, qui s'appelle, que c'est le professeur Gruberson, que là, tout d'un coup, lui, il est comme fasciné, là, il dit « Hey, que c'est une vraie trappe ou pas? » Tu sais, puis il trippe. Puis là, quand il se rend compte que c'est une vraie trappe, ben là, tu sais, il va comme réintroduire, tu sais, c'est un peu pour, ben, pour, pas pour nous autres, ben, pas pour moi, dans le fond, là, mais pour la jeune génération qui n'ont pas vu le film original de 84. Fait que, tu sais, c'est comme un peu pour réintroduire les personnages ou pour ceux-là qui n'ont pas vu le film depuis 1984, ben, pour être juste se réintroduit. Tu sais, dans le fond, ils voient des vidéos YouTube, tout ça. Tu sais, c'est cool un peu de voir ça dans cette optique-là, mais dans le fond, c'est le film de 84 qu'on joue là, sur des vidéos. J'ai remarqué dans la version française, je l'écoutais en anglais, puis après ça, je l'ai réécouté en français, dans le fond, dans mes réécoutes. Puis j'ai remarqué que quand on fait jouer le film en français, ben on a vraiment pris l'extrait des voix en français de 1984, de les voix de Bill Murray, de Egon et de Dan Aykroyd. C'est vraiment le clip du film original. Je trouve que c'est le fun qu'ils n'ont pas réenregistré les voix avec les voix actuelles là, des acteurs. C'est ceux qui ont vieilli. Puis je sais pas si c'est les mêmes acteurs, là, mais à la fin, ils sonnent pas pareil. Là, tant qu'à moi, là, c'est sûr que il y a 40 ans de différence, là, ou presque. Là. Fait que c'est ça. Là, ils vont. Pourquoi est-ce que le professeur Gruberson va arriver et va dire ben, on va essayer la trappe puisque c'est une vraie, on va essayer de l'ouvrir. C'est quoi l'idée? C'est là, je veux dire, je me dis ok, je veux dire, le gars, il est bright. Je veux dire, tu sais, il est séismologue, tu vois, qu'il est capable de faire des calculs, des affaires de même. Mais c'est quoi l'idée de plugger une trappe et faire libérer un fantôme qui était attrapé? Je sais pas. En fait, là, il est peut-être secrètement là, de la société protectrice des fantômes, quelque chose de même. Mais je veux dire, surtout qu'il va le mettre la trappe sur sa voiture. Dans le fond, elle va être, il va être branché au moteur d'un autobus. Tu sais, dans le fond, ils vont faire un survoltage. Puis, dans le fond, ça va faire sauter tout son pare-choc et sa fenêtre là, de voiture. Il va tout maganer sa voiture. Mais, tu sais, c'est juste une question d'avoir un peu de spectacle. Là, mais, en bout de ligne, ben, ils vont réussir à faire sortir le fantôme. Puis, le fantôme ben, va aller se cacher dans le repère de Gazer. Ben, c'est peut-être Gazer. C'est peut-être ça. J'ai peut-être pas compris. Mais, c'est quoi l'idée? rendu là, pourquoi avoir fait ça? C'est nono, là, je veux dire, d'avoir fait ça. C'est sûr que souvent un film, c'est des répercussions là, d'un personnage nono, même des fois le personnage principal, qui fait une gaffe, puis dans le fond, il doit réparer là, son erreur. Mais je veux dire, je la comprends pas tout à fait. Surtout que le gars, il sait c'est quoi. S'il savait pas c'était quoi, OK. Mais là, il vient tout de nous expliquer c'était quoi la trappe. Il sait c'est quoi. Puis là, il y a un fantôme dedans. Puis, hey, on va le sortir. Ça marche pas, là. Fait qu'on arrive au bout où ce que Phoebe et Podcast, ils se mettent à essayer là, le rayon le rayon à protons. Puis là, c'est ça. En tout cas, je veux dire, ce que j'aime là, dans ce film-là, c'est qu'ils ont la. Tu sais, ils gardent le côté rustique des 80. Ça a l'air bric-à-brac un peu. Tu sais, j'aime ça qu'ils ont gardé là, toute la forme tu sais, tu vois, genre, il y a juste un piton pour mettre à on. Puis, tu sais, juste le côté maison là, de toute la fabrication. Là, tu sais, c'est pas exactement, ça ressemble beaucoup là, au montage original, mais tu sais, Phoebe, elle doit remonter pareil là, une partie là, le Proton Pack, là, en tout cas le sac à dos. Fait qu'elle l'essaye, puis, tu sais, en tout cas, c'est juste comme vraiment l'affaire cliché où elle va l'essayer, puis elle va tout défoncer, puis. Podcast, lui, il va arriver, il va dire, hey, oui, t'as réussi, t'as vraiment tout détruit, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste quand même, même si c'est comme un peu cliché, j'aime quand même la mise en scène, puis, tu sais, le son aussi. Tout, on dirait que ça a plus de punch. Tu sais, c'est sûr qu'on est en 2000. 2021, là, où, quand on a sorti le film, là, puis, tu sais, on a un peu des meilleurs effets sonores. C'est très similaire à l'original, mais, tu sais, un petit peu un meilleur mix, si on veut, là, mais je rabaisse pas le produit original, là, qui sonnait, là, aussi pareil, mais, tu sais, en tout cas, toute cette scène-là, pareil, la mise en scène, tout ça, je trouve que je l'aime bien. Je suis pas sûr si j'achète le fait que elle est capable de quand même tenir le rayon à protons. S'il est capable de le tenir, c'est sûr qu'il garde à Egon à la fin, lui, il a pas le choix de comme l'aider à le tenir parce que justement, il n'est pas capable de stabiliser, mais je trouve qu'il est pas mal stable pareil. Qu'il en a garde quand même les Ghostbusters dans les deux premiers films, ben tu sais, il y avait de la misère à quand même juste garder ça droite. Puis elle est capable de quand même, tu sais, c'est pas droite, 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 mais c'est quand même assez stable quand même, là. Quand je pense qu'un adulte qui avait de la misère à les garder, là, dans les premiers films, là. Mais bon, c'est un détail, là, tu sais, ça fait un petit peu partie de l'histoire, justement, à cause de la fin, là, mais je trouve quand même que c'est une belle scène de réintroduction. T'sais, on est tout en train de reconstruire tout ça. Là, il y a comme une coupure à ce moment-là où ce que tout d'un coup, ils entendent un cri en arrière, puis que finalement, il y a un genre de vieille, je sais pas, une industrie abandonnée, quelque chose de même, un genre de gros hangar, puis ils trouvent un fantôme dedans, là, je pense qu'il l'appelle Muncher, que lui, il mange n'importe quoi. T'sais, c'est comme un substitut à Slimer, parce que Slimer, ben c'est ça, il était rendu gentil, là. Je suis curieux de savoir qui va devenir dans le nouveau film, là, je sais. En tout cas, c'est spoiler, je sais. Il est genre sur le poster, de toute façon, là. Fait que, il est un peu dur à manquer. Mais j'espère qu'on n'aura pas une histoire d'origine, honnêtement. J'espère qu'il ne sera pas central à l'histoire. Honnêtement, là, c'est ma peur. Mais bon, vous avez peut-être vu la bande-annonce, pas moi. Mais c'est ça, lui, il mange du métal, puis, tu sais, dans le fond, il s'est remis à cracher comme quasiment des balles, tu sais, en tout cas, c'est tiré par les cheveux un peu, là, si vous regardez dans la vidéo, regardez pas mes cheveux, s'il vous plaît, mais, c'est ça, je trouve que c'est de la BD, honnêtement, là, ça, justement, qu'il mange du métal, puis tout d'un coup, il recrache. Pourquoi est-ce que techniquement il mange du métal? T'sais, il doit manger du métal pour avoir une genre de propriété dans le métal, quelque chose en même, puis qu'il la recrache, je sais pas. Peut-être que je cherche trop loin, là, fait que je vais arrêter ça là, mais ils vont aussi, t'sais, dans le fond, c'est un peu leur scène là, de l'hôtel dans le premier film, là, où ils se testent un peu, ils vont comme le poursuivre. Finalement, comme par hasard, ils tombent sur Trevor, que lui, il a fini de monter la Ecto-1, que lui, il est en train là, de faire la trail avec Ecto-1. Je trouve que le film, comme la Ecto-1, c'est ça qu'il commence à faire un peu. Il commence à déraper un peu. T'sais, autant qu'il y avait un peu de cœur, là, je trouve qu'il essaie d'être trop cool. Puis, je sais pas si j'adhère à ça à 100%. La Ecto a fait penser plus à justement la version comique que la version des films. Dans le fond, éventuellement, Phoebe est assise sur le côté, puis là, tout d'un coup, elle a une porte de côté où elle peut commencer à tirer. Je l'avais à l'Ecto, dans le fond, j'avais la caserne, je sais pas si j'ai mentionné ça il y a une couple de semaines, ça fait quand même un bon bout là, que j'ai parlé là, de tous les détails, là. Je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit là, dans chaque podcast, mais je l'avais à l'Ecto 1, puis je me rappelle pas, mais il me semble qu'elle avait soit en arrière ou quelque chose de même, il y avait un canon hein, quelque part, là, ou il l'avait là, dans le comic, là, je suis pas trop sûr là, de ça. Mais je vais reparler de quelque chose aussi tantôt là, que j'avais comme jouet, là, que j'ai été vraiment surpris de voir. Mais je trouve que c'est devenu un petit peu trop super-héros, peut-être. Je sais pas si je peux dire ça de même, ou est-ce qu'on est rendu trop parfait. Là, tout d'un coup, on a le bolide indestructible qui peut tout faire. T'sais, ils ont leur tank de guerre qui est important. S'il y a quelques minutes ou quelques, ben, tu sais, mettons quelques jours, là, que la Ecto était sur le point de tomber en morceaux, puis elle tient à pas grand chose. Je comprends que c'est un peu peut-être un symbole de le passé tient bon, tu sais, je veux dire, il est encore solide, là, peut-être, là, tu sais, c'est peut-être ça. Mais bon, c'est. Je sais pas. Moi, voir la Ecto là, dans les champs, là, en train là, de faire la trail, je suis pas. J'aime pas ça. J'aime pas cette scène-là. Je trouve qu'elle fit pas. Là. De toute façon, elle resterait plantée. Là. Je veux dire, elle pognerait une flaque de boue, puis elle virerait de tour. Là. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Là. Mais c'est ça. Fait qu'ils partent avec. Pour poursuivre le Muncher au travers du village. Dans ce temps-là, il y a. La mère là, qui est avec Paul Rudd. Là, excusez, là, Paul Rudd là, ou M. Gobridge ou quelque chose de même. Là, je veux dire Paul Rudd, là, c'est plus facile pour moi. Là, puis la mère, on dirait que son nom n'a pas l'air de me coller dans la tête. Fait que je veux dire la mère. Fait que en bout de ligne, c'est ça son rôle. Puis c'est ça. Fait que les autres, ils sont en train de souper. Il y a le fantôme qui leur passe dans au visage ou sont en train de dîner. Là, puis eux autres sont en train de faire la grosse tirée là, à les Clint Eastwood là, au milieu du village. Là, en tout cas, c'est comme. C'est bizarre. T'sais, éventuellement, ils vont se faire arrêter par la police à cause de ça. Mais c'est comme un peu trop. Là, c'est, on est rendu là, dans un comique. Là. C'est plus. C'était quand même assez. Les deux premiers films avaient comme un peu. Bon. Là, vous allez me dire, ouais, mais Mathieu, il y a une statue de la liberté qui marche dans Ghostbusters 2. T'es-tu dans la réalité, là? Non, ok, je le sais. Mais il y a quand même un côté où ce que ça se tenait, là, tu sais. Là, c'est comme. Comme je dis, là, j'ai plus l'impression d'être dans la suite du comic ou qu'on a pris en considération que le comic est canon. Bon, c'est. Le 2 aussi avait comme pris un peu que le canon. Le comic était canon. Fait que c'est pas une trahison, là, rendu là. Mais, tu sais, si tu veux revenir au. Tu sais, personne a parlé des comics. Dans la production. Tu sais, l'amour du premier film, c'est ce qu'on démonte aujourd'hui. On démonte pas, on parle pas du comic, mais on va chercher le ton du comic. Là. Fait que c'est ça un petit peu que ça me gratte un petit peu. C'est pas que j'aime pas le comic, je veux dire, je l'écoutais, mais un comic, c'est un comic, ou une bande dessinée pour enfants, c'est une bande dessinée pour enfants. Mais c'est ça, tu sais, je me sens pas connecté ce film-là un petit peu avec le film original en fait de ton à cause des affaires de même. Mais c'est comme après ça, des fois, il revient sérieux. Il est vraiment étrange. Mais après ça, ben, c'est ça. On a. Ils vont éventuellement là, attraper Muncher. Tu sais, il y a le piège que je pense qu'il tenait peut-être Gozer ou quelque chose en même là, au début. C'est peut-être ça, je ne l'ai pas compris comme j'ai dit. Mais ils ont comme un genre de drone sur roue là, qui finalement qui peuvent l'utiliser là, pour pouvoir rattraper Muncher. Puis, c'est quoi? Il n'y a pas de problème du tout avec ce piège-là qui était dans le fond d'Ecto 1, mais l'autre piège qui a été fonctionnel dernièrement, ben, il a besoin de se faire booster, tout ça. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, là. Mais c'est juste un petit détail que je remarque qu'on a utilisé la même affaire, mais tout d'un coup, dans un tel cas, ça marche, puis dans un tel autre cas, qui est peut-être qui demanderait plus de jus, qui fonctionne. Je comprends pas tout à fait, là. Mais bon. Mais c'est comme à ce bout-là, je trouve que justement, tu sais, dans tout ce que je viens de parler là, dans le dernier segment, où ce que Phoebe, elle commence à utiliser là, le rayon à protons, puis ou le fusil à protons, en tout cas, utiliser le terme que vous voulez. Tout ça, on dirait que tout d'un coup, là, le film avance comme à une bonne cadence, comme on redécouvre tout. Puis là, tout d'un coup, on met la pédale dans le fond. C'est comme tout d'un coup, on saute dans un autre film. Elle embarque dans l'Ecto 1 avec son frère, que lui, il a raté son cours de conduite 3 fois. Tu sais, je veux dire, je serais pas sûr d'embarquer avec. Pareil, là, c'est beau, il y a des champs alentours, mais s'il l'a raté en tant que tel, c'est probablement parce qu'il y a des affaires qui marchent pas. Puis pourtant, c'est ce que j'ai pas remarqué vraiment, quelque chose qui fait que. Je comprends qu'il n'y a pas de permis de conduire, mais il n'y a pas. Tu sais, je veux dire, s'ils auraient rentré dans un mur ou quelque chose en même, je comprends, mais tu sais, ça a comme pas de. Ça n'a pas rapport d'être là en tant que tel. C'est beau, il n'y a pas l'âge dans le pire des cas, là, mais bon. Fait que. C'est ça. Fait qu'ils se font arrêter, puis là, ben, Phoebe a le droit à un appel, puis là, elle va décider d'appeler Ray Stantz. Ben, en tout cas, d'appeler les Ghostbusters. C'est, je pense, le seul lien qu'il y a avec Ghostbusters 2 où ce que Ray il a sa boutique, là, Ray's Occult, puis qui va. Ben, tu sais, qu'il l'avait là, dans le deuxième, puis là, c'est ça, il continue avec sa boutique. Mais. C'est ça, mais là, Ray lui répond, puis là, ben, tu sais, je veux dire, il est pas trop sûr parce que là, il dit, bon, ben, j'appelle pour Egon, puis là, ben, il dit, Egon peut mourir. Tu sais, je me dis, bon, ben, Janine, elle a pas appelé Ray, il a pas dit, hey, Egon est mort la semaine passée, tu sais, je veux dire, c'est un détail, mais je me dis, elle aurait probablement appelé et pas en chicane avec les autres, là. Puis, ben, en tout cas, je sais pas, là, tu sais, je veux dire, on le voit pas, là, je comprends là-dessus. Mais, tu sais, c'est pourquoi ils sont pas au courant. C'est ça que je comprends pas, là. Je trouve que ça n'a pas de sens en bout de ligne qu'ils ne savent pas. Même s'ils sont déconnectés de lui, c'est ça, il y a Janine, pareil. Fait que, c'est ça, hein. Peu importe, Ray, lui, il se met à dire toute l'histoire de tout, qu'est-ce qui s'est passé avec Winston, qu'est-ce qui s'est passé avec Bill Murray, le Venkman. Pourquoi? Je sais pas. T'sais, je veux dire, c'est carrément un inconnu. Il sait même pas que c'est la nièce, la petite fille à Egon. Il se met à compter ça tout de même. Lui, il a pas de problème. Là. T'sais, je comprends qu'ils veulent comme un peu réintroduire d'une manière. Je sais pas si c'était. On n'aurait pas dû avoir justement peut-être un caméo ou quelque chose en même. Pas juste avoir Ray. Si mettons. Tu sais, je comprends que là, ils nous mettent Ray pour nous dire bon, ben, tu sais, les vieux Ghostbusters, ils sont là. Tu sais, t'as un caméo de Ray. On peut peut-être se dire qu'on va avoir un autre mini caméo de Bill Murray un peu plus tard, puis un autre mini caméo d'Ernie Hudson aussi. Pareil comme qu'on a fait là, dans Ghostbusters 2016. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça plus. Parce que là, tu sais, comme quand il va arriver à la toute fin, ben c'est ça. Du coup, je vais en parler là, à la toute fin, là, quand il va arriver. Puis juste de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, juste en 2 lignes là, pour chaque personnage. ça dure une minute à peu près, où ce que tu sais tout ce qui s'est passé, puis là, ben, tu sais, ils sont tous un peu dispersés un peu partout. Je pense qu'ils n'habitent plus à New York, à part juste Ray. Puis, tu sais, la caserne, tout ça. Tu sais, c'est, je comprends, c'est pour nous autres. Dans le fond, ils parlent à nous autres. Là. C'est, ils ne parlent pas à elle, ils parlent à nous autres. Tu sais, je le comprends, là. Je ne suis pas nono, mais... même si vous pouvez penser, là, vous avez le droit, là. Mais c'est ça. Tu sais, je trouve ça bizarre. Tu sais, je trouve qu'on aurait dû avoir peut-être un peu de... réintroduisez-les un petit peu. Tu sais, montrez-le prendre le téléphone après. Tu sais, montrez un peu de Ray tout seul, au pire. Mais là, c'est juste une scène qui est collée. Puis là, tu te demandes, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Je comprends que ça a peut-être plus d'impact à la toute fin. Tu t'attends pas à ce que tu les vois. Mais c'est je trouve pour... Je comprends pour le punch de fin. Ça, je le comprends. Ça a le plus d'impact. Tu t'en attends moins. Mais pour un film, je trouve que ça aurait été plus le fun. Parce que là, tu sais, t'as vu le film la première fois. Tu l'as vu. Mais quand tu revisites... Tu dis, il y en manque. Il faudrait les voir un peu plus. Là. Tu sais, ça marcherait mieux à partir de là. Fait qu'on arrive à la scène de Paul Rudd qui se promène au Walmart. Puis là, je pense que là, ça commence. Ça s'en va dans le champ. Là c'est le bout là, où on fait juste le premier film. Là. Il se promène dans les allées. Puis là, il voit des mini Bidabum Chamel. Je comprends que dans cet univers-là, c'est une marque de commerce de marshmallow. Mais c'est juste, de un, les Bidabum Chamel qui sortent de leurs emballages. C'est juste ça, là. Je comprends que Gozer, je sais pas, il est nostalgique ou quelque chose de même. Mais... Clairement, là, c'est un clin d'œil non nécessaire, non, c'est pas logique. Je vois pas le côté logique. Si Marshmallow, Bidabum était quelque chose qui appartenait à Gozer, ça va. Mais là, ça vient dans l'imaginaire, ça passe par Dan Aykroyd, dans le fond. Tu sais, en bout de ligne, le Gozer, il sait même pas c'est quoi Bidabum Chamel. Lui, ça a passé dans la tête à Ray Stantz, puis il se dit, c'est ça, je veux. Mais là, que tout d'un coup, comme par hasard, il se promène dans les allées, puis il y a des mini Bidabum. Tu sais, on le voit sur la pochette, tout ça. Tu sais, on essaye de faire genre des cute mini Bidabum Chamel. Tu sais, on l'avait en gros, là, on l'a en petit, tu sais, il est tout cute, tout ça, là. Mais, je trouve que là, on est en train d'essayer de faire un gros goût, là, au bébé Yoda, là, si vous préférez, là, si vous connaissez pas le nom, là, dans Star Wars. Je trouve qu'on essaye d'aller nous chercher pour n'importe quoi, là. Ça, je l'ai toujours trouvé dégoûtant, là, cette scène-là. Là. Puis, il rentre au Walmart, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus personne dans le Walmart. Il y a juste Paul Rudd qui est là. C'est bizarre. C'est comme un peu dans le montage, là. Ce que j'aime, par contre, c'est qu'on utilisait un Walmart, puis tu sais, tout le monde est allé dans un Walmart, je pense, là. En tout cas... J'espère que vous savez c'est quoi un Walmart, là. Mais, tu sais, on voit toutes les allées, tu sais, pareil comme dans un Walmart. Fait que, tu sais, c'est comme ça touche la réalité. Puis ça, j'aime ça, juste cet aspect-là. Mais juste qu'il y ait juste les Bidabum Chamel, ça, je sais pas, je trouve ça... On veut vraiment nous dire, hey, on est en train de juste en jouer avec tous les éléments du film de 1984. T'es supposé aimer ça. Puis là, en plus, à place d'avoir le gros Bidabum Chamello qui était très beau, ben là, on a tout le mini cute. Tu sais, c'est. Non. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, on a comme la scène du premier, on a le chien, là. Je me rappelle pas encore le nom, là. Terror Dog, je pense. Je pense que c'était ça le nom. Ça va être Terror Dog là, à partir de maintenant. Ben, qu'il va poursuivre Paul Rudd, puis que finalement, ben, tu sais, il va faire pareil comme il a fait à Lois. Finalement, il va prendre possession de son corps, là. Mais, tu sais, en tout cas, j'aime quand même avoir le Terror Dog, là. Il a de l'air plus plastique, là. Ben, tu sais, il avait de l'air plastique dans le premier, mais je le trouve peut-être plus impressionnant dans le premier film. Je sais pas si c'est moi, là, mais je pense qu'il était plus impressionnant. Quand on le voyait là, dans l'appartement là, de Lewis, là, je comprends qu'ils l'ont fait probablement un peu en réel, puis ils l'ont fait certains bouts en CGI. Ça, je le comprends, là, le CGI, là, c'est correct. Là, ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment comme quand il est en train de manger. Pas... Puis je me dis, bon, OK, c'est un genre de fantôme, puis il est en train de manger. Je pense qu'il est dans du popcorn ou quelque chose de même là. Je me dis il est là. Je sais pas. T'sais, je veux dire, c'est comme s'arrêter l'équivalent de d'Anna qui ouvre son frigidaire puis que il est en train de manger des œufs là. C'est parce que c'est ça qui se passe dans le fond. On a le Terror Dog qui est dans son frigidaire, mais qui mange rien. Mais là, c'est comme si c'est ça. Il a besoin de manger son frigidaire. Tu sais, c'est nono, un petit peu. Je sais pas. T'sais, ça colle pas. Là. Pour moi, là, ça colle pas. C'est peut-être moi qui est trop. Qui cherche des défauts, mais ça colle pas. Fait que là, toutes les jeunes se réunissent. Ils ont comme tout à fait. Ben, ils sont sensiblement quatre en bout de ligne. Là. On a Podcast, on a Phoebe. Je sais pas si on a Lucky. Puis on a Trevor. Et, bon, même Paul Rudd est peut-être à part. Il est-tu un Ghostbuster? Il l'est pas tout à fait. Mais bon, tu sais, c'est le fun pareil que l'équipe est pas. Ben là, il fait pas partie de l'équipe parce que là, il est rendu là, Vince, je pense, là, le serveur de la porte. Puis là, ben, pendant ce temps-là aussi, là, la mère là, qui s'est rendu compte là, que de tout qu'est-ce que Egon avait gardé. Il avait gardé des photos de sa fille, pis tout ça. Puis là, tout encore un moment, tout émouvant un peu pour qu'elle arrête de se fâcher contre lui, parce que depuis le début du film, là, elle n'a rien de bon à dire contre lui, sur lui. Puis c'est ça. Fait que finalement, elle commence à comme le pardonner peut-être là, on voit qu'elle voit un peu son point de vue tranquillement, mais tu sais une fois qu'elle s'en rend compte, ben l'esprit là, de Zool vient là, prendre possession d'elle. Mais c'est ça, toutes les autres, ben c'est ça, dans le fond, là, ils se sont comme réunis, là, dans le fond, ils ont été enfermés en prison, le shérif, c'était le père de Lucky, puis tu sais, c'est comme, bon, ils sortent de prison. Là, il retrouve les décombres là, qu'on a vus un peu plus tôt. Puis là, ben, tu sais, il voit là, qu'il y a comme un feu dans le fond là, d'un puits. Puis que, tu sais, dans le fond, il y a Gozer qui est là. Parce que Trevor, lui, il se promenait là, avec... ben, tu sais, il s'est tenu un peu avec Lucky là, puis ses amis un peu plus tôt. Puis, c'est sûr, tu sais, il avait vu là, comme un feu dans le fond du puits où ce qui était là. Tu sais, c'est comme un peu trop de coïncidence que tout tombe en même temps. Là, tu sais, ça l'avance. C'est comme trop bien placé, là, tant qu'à moi. Là, c'est comme trop bien écrit, peut-être, là, que tout a une conséquence. Là, tu sais, comme tout était bien placé. C'est comme un peu même le Munchie qu'ils ont attrapé, ben. Tu sais, comme par hasard, il est en arrière, il est enfermé, mais qu'il réussisse à ouvrir la trappe pour que Munchie, il va manger les barreaux pour qu'il puisse aller récupérer là, leur arsenal là, un petit peu plus loin. Là. C'est comme trop bien placé. Là. C'est comme un petit peu... Là, je veux pas dire ça m'écœure, là, mais je trouve que c'est... En étant peut-être trop bien écrit... Je trouve que c'est trop facile rendu là. C'est comme ils ont vraiment trop écrit. Ben, tu sais, j'ai déjà parlé là, de Dark Knight, mettons, là, que tu sais, je trouvais que tout était bien écrit dans ce film-là. C'est peut-être le côté réalisation aussi que, tu sais, que Christopher Nolan a, contrairement au film aujourd'hui. Là, tu sais, c'est la manière que ça apparaît. Là, tu sais, je veux dire, aussi, on est genre pas loin de 15 ans après The Dark Knight aussi. Fait que, tu sais, c'est des tours qui ont déjà été utilisés. C'est bien écrit, mais je trouve que c'est de la coïncidence aussi. Là. C'est ça l'affaire aussi. C'est, il y a quelque chose, pourquoi que Trevor est là, comme par hasard, il trouve l'endroit. Puis, un peu plus tôt, on avait Phoebe qui était là aussi. Puis que là, c'est comme trop tout est interrelié. C'est ça un petit peu qui m'énerve un peu. Mais c'est bon. Fait qu'il trouve la grotte où, ce qui est dans le fond, il y a comme l'endroit où ce que Gozer, à chaque année, là, ben pas à chaque année, là, mais à chaque tel temps, là, il ressuscite. Puis, tu sais, dans le fond, on a. C'est comme écrit ces murs, là, il y a comme des chiffres. Là, qui, je pense que même Egon avait écrit là, dans sa maison, à quelque part, comme si on pensait au début qu'il virait fou. Mais dans le fond, c'est toutes des dates qu'il a écrites. Puis c'était 1984, puis après ça, ben, tu sais, 2021. Puis je pense que l'autre après, ça tombe à 2300 quelque chose. Tu sais, on le voit pas vraiment. Là, il veut, mais, tu sais, fait que je sais pas si, mettons, là, on a Ghostbusters. Ben, à vitesse qu'on fait des films, là, tu sais, ça va être le 9e film, probablement, là, en 2345, quelque chose de même. Là, puis je sais pas si Gozer va revenir, là, en tout cas, dans ce temps-là. Malheureusement, moi, je pourrais pas être là. Je veux dire, j'aurais aimé ça le couvrir encore, là, en 2345, mais malheureusement, je pense que je serai pas là. Mais qui sait? Tu sais, je veux dire, je veux pas parler trop vite, là, on sait jamais. Mais c'est ça, fait qu'à côté, on a vu ça un peu partout, là, les terres de Shandor, tout ça, puis dans le fond, c'est un genre de vieux possédé, là, qui, lui, dans le fond, là, il a comme créé un peu une secte alentour de ça, puis là, ben, tu sais, il essaie de faire revivre Gozer, puis, tu sais, finalement, ben, éventuellement, Gozer va se réveiller, puis c'est drôle un peu, tu sais, dans le fond, là, c'est joué, là, par, son nom m'échappe, là, pas Perry White, là, mais dans celui-là, dans Spider-Man, là, qui a fait aussi là, le commissionnaire Gordon là, dans Justice League. Là. En tout cas, vous savez de qui je parle. Je veux dire, c'est toujours le fun de le voir. Il y a quand même une présence, ce monsieur-là. Puis, je veux dire, il se fait déchirer là, en deux. T'sais. Je veux dire, c'est... Le Gozer est joué par Olivia Wilde. Si vous la reconnaissez, là, dans Dr. House, elle a fait ses débuts-là. Puis, dans le fond, c'est elle qui remplace là, l'actrice originale. Mais, tu sais, la ressemblance, c'est comme un peu ça ressemble en bout de ligne. Tu sais, on veut recréer. Ce que je trouve quand même drôle, c'est qu'on recrée tout, mais il y a des détails sur Vince puis sur Zool qu'ils ont inversé. On est supposé voir les mêmes personnages. Je vois la scène, mettons qu'ils vont aller s'embrasser, les affaires de même, puis je me dis, bon ben, je trouve que Paul Rudd, il joue pareil comme Lewis dans le premier film, mais c'est les mêmes personnages qui jouent, ok? Fait que je me dis, ça a du sens, je trouve qu'on est en train de se répéter, mais c'est beau, je comprends que ça, c'est les mêmes personnages, puis il faut qu'ils fassent la même affaire, je le respecte d'un côté, qu'en bout de ligne, c'est comme, tu sais, c'est pas comme une émission là, de télé où c'est qu'une semaine on essaye quelque chose, puis la prochaine fois on essaye une autre affaire. Tu sais, que ça soit, je sais pas, moi, Shredder dans les Tortues Ninja, une semaine il fait quelque chose pour essayer d'arrêter les tortues, puis l'autre semaine après il fait quelque chose d'autre, puis tu sais, il y a tout le temps quelque chose de différent. Là, c'est sa méthode, à quelque part. Il n'y a pas le choix d'avoir Zool, puis il n'y a pas le choix d'avoir Vince, puis. Un rentre dans l'autre, puis, je veux dire, ça l'ouvre la porte pour amener Gozer. Tu sais, ça marche tout le temps pareil. Ça, je trouve ça intéressant qu'ils ont utilisé la même affaire, puis la même technique, puis je trouve que ça a du sens. Mais, c'est sûr que ça fait redondant. Je trouve qu'il y a, je sais pas s'il n'y aurait pas une manière d'avoir coupé ça. Tu sais, je veux dire qu'on ne voyait pas nécessairement, là, que ça soit une autre personne. Tu sais, des fois, on fait ça dans un film, là, carrément, là, c'est pas nos personnages qu'on connaît, c'est juste deux autres personnages qui ont été possédés, puis que, finalement, ben, ils deviennent Zool et Vince, puis ils ouvrent la porte. On fait pas le même scénario, parce que là aussi, on a la mère, à quelque part, est assise sur le divan, puis elle dit « Ah, je suis pas votre mère, il y a juste Zool ici ». C'est la même scène que dans 84. Fait que, tu sais, ça devient redondant. C'est tout simplement. Puis, tu sais, ça avait plus d'impact dans le film de 84, naturellement. Parce que c'était la première fois, là. Tu sais, je veux dire, ça donnait un impact. Mais Là, c'est juste comme on sait où est-ce qu'on s'en va. Là. C'est comme elle va-tu finir la scène. Là. Fait que, tu sais, c'est correct, c'est normal, c'est ça que ça fait, mais c'est redondant. Fait que, on a ça, puis le fait que justement, on fait tout pareil, ben, tout est inversé un petit peu. Ben, je comprends juste par la manière que Sigourney Weaver, elle doit faire 6 pieds 8, là, je sais pas, en tout cas, c'est sûr que, aussi, Rick Moranis, c'est probablement 5 pieds 2, là. Fait que, tu sais, elle, s'il est 6 pieds, puis lui, il est 5 pieds 2, quelque chose de même, là, j'ai aucune idée c'est quoi leur taille, là. C'est comme elle qui le prend dans ses bras dans le film original. Puis là, ben, dans le film aujourd'hui, s'ils font l'inverse, puis, tu sais, je me dis, on fait toute la même affaire, mais ça a juste comme pas de sens, l'autre côté, là. Ben, je comprends, là, mettons que, tu sais, il se dit, bon, ben, c'est lui qui est, cette fois-là, il dit, c'est moi qui va te prendre, là, tu sais, dans le pire des cas, ça peut passer, mais pourquoi est-ce que, quand il arrive pour s'installer en face de, pas la pyramide, là, mais, tu sais, où est-ce qu'il y a comme toute l'escalier, là, pour arriver à les portes de Gazer, ben, pourquoi qu'ils ont inversé de côté? Ça, je trouve que... Je peux laisser passer pour le côté qui s'embrasse, OK, parce qu'un est plus grand que l'autre, puis, tu sais, il se retourne un peu, là, la scène de l'autre année. Ça, je peux comprendre, mais pourquoi que ça? C'est un détail, mais si, mettons, Vince est à droite normalement, puis là, tout d'un coup, il est à gauche. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, j'imagine que ça doit être comme placé, une genre de, pas une hiérarchie, mais juste une manière de, tu sais, comme son trône à Gozer, là, genre, tu sais, placer ça de même, là, mettons. Normalement, un est à droite, le même doit être à droite, là, tu sais, en tout cas. Là, je suis en train de parler d'un détail, mais je trouve ça, c'est un détail qui aurait dû rester pareil. On a tellement tout mis pareil, pourquoi que ce détail-là a changé? C'est pas important, ça change absolument rien, mais ça, c'est comme on dirait qu'ils ont manqué ce détail-là. Ils ont tellement voulu nous mettre la nostalgie qu'on revoit les mêmes choses. Ils veulent mettre un spin, mais si tu veux mettre un spin, ben je sais pas si c'est un spin là, que je veux dire qu'ils ont juste inversé de place, là. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens pour ce spin-là. Là. Fait que, finalement, là, ils réussissent à essayer là, de passer un piège en tour de Zool, puis finalement, ben, leur mère est libérée, puis après ça, ben, ça rentre à la ferme là, de ben, la maison de Egon pour essayer là, de Gozer va les suivre, puis dans le fond, on essaye là, d'avoir le dernier affront à cet endroit-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est bien apporté là, dans tout ça. Là. Éventuellement, ben, on a l'apparition là, de nos Ghostbusters. Quand on pense que, là, qu'on a touché là, le fond, nos trois vieux Ghostbusters arrivent sur place. Honnêtement, ils ont pris un coup de vieux. Là, ça. Je veux pas être méchant, là, mais Bill Murray, pas jeune. Là, j'ai pas l'âge en face de moi, mais... ils ont pas de l'air en forme, ça fait longtemps qu'ils ont mis le Proton Pack, là, ça paraît, mais ça fait du bien de les revoir. Là, c'est là où c'est que le film part en mode nostalgie, où c'est que éventuellement eux autres s'asseyent, il y a Gozer qui garde Ray et dit t'es-tu un dieu, un rappel au premier film. C'est un bon clin d'œil, c'est le fun, puis dans le fond, là, il répond oui cette fois-là. Je vois pas pourquoi que Gozer a pas demandé un peu plus tôt à Phoebe si, mettons, elle était une déesse. Ça aurait été comme un peu... Ça aurait eu du sens à quelque part, mais ils ont gardé ça pour Ray, puis c'est correct. Dans le fond, là, l'idée du premier film revient. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment la réaction des deux autres aussi, parce que là, tu sais, elle dit t'es-tu un dieu, puis là, il boque un peu, puis les deux autres, ils disent ah ouais, Ray, dis quelque chose, tu sais c'est quoi la réponse, tu sais, puis là, il répond oui, là. Fait que c'est un moment humoristique, il n'y a pas de sens, honnêtement, là, qu'en bout de ligne, que cette scène-là arrive, c'est comme Gozer, il s'en rappelle, mais. Parce que supposément qu'il se rappelle des Ghostbusters, c'est la manière que Bill Murray parle, c'est oui, il se rappelle de nous autres, mais en bout de ligne, je vois pas d'autres raisons pourquoi il se rappelle, ben qu'elle se rappelle d'eux autres. Fait qu'éventuellement, ben, je sais pas si ça a du sens. Le rayon du proton peut. C'est comme un fouet rendu là, puis ils peuvent désentortiller les faisceaux, puis, tu sais, en tout cas, c'est étrange. Peut-être que ça a du sens rendu là. Je veux dire, c'est comme un fouet, puis ça l'englobe, les fantômes, puis sont pognés. Peut-être. Ça a du sens que là, tout d'un coup, c'est comme une corde, puis ils tiennent. C'est vraiment une drôle d'idée. Honnêtement, c'est, on a cherché quelque chose. Mais bon, je connais pas cette technologie-là, puis ok, c'est beau. Je veux dire, le gazeur est capable de l'attraper, le faisceau, là, ok. Fait qu'elle va retourner ça contre les trois chasseurs de fantômes, puis là, ben, il reste juste Phoebe debout, puis que finalement, ben, t'sais, son grand-père va l'aider. Tu sais, là, t'sais, on presse le citron, là. Tu sais, je veux dire, où ce que Egon est à côté d'eux autres. Finalement, tout le monde, ils sont tous un à côté de l'autre, éventuellement. Je sais pas comment que ça se passe, éventuellement. Tu sais, comme les trois chasseurs de fantômes sont pas à côté de Phoebe, mais tout d'un coup, Egon est à côté de Phoebe, puis il est à côté des Ghostbusters. Je sais pas. Tu sais, c'est juste pour qu'on les voie tout ça, là. Je le comprends pour qu'on les revoie, tu sais, qu'on presse le citron nostalgie. C'est des. Tu sais, oui, je veux dire, ça a de l'impact, là. T'sais, puis je veux dire, finalement, on réussit à avoir Gazer, puis t'sais, régler on règle tout ça. Mais c'est ça. T'sais, je veux dire, la fin, dans le fond, là, c'est vraiment là, juste pour avoir comme les quatre chasseurs de fantômes ensemble une dernière fois. On n'a pas fait de voix pour Egon, t'sais, pour qu'on arrive et qu'on dit, bon, ben, t'sais, ça sonne pas comme lui. Je trouve que la création qu'ils ont faite est très bien réussie, honnêtement. Je pense qu'ils ont mis le paquet. Au début, ils l'ont gardé dans l'ombre. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, honnêtement, en fantôme, il paraît super bien. Je trouve que ça, c'est très convaincant, la version des guns qu'on a. Puis c'est une belle scène en bout de ligne. Tu sais, je veux dire, on ferme tout. Si le film est sur la famille, c'est ça, dans le fond, ce que sa fille, elle doit se réconcilier avec son père. Puis, tu sais, dans le fond, que. Ben, tu sais, qu'on continue avec la famille Spengler. J'aime quand même le côté. C'est comme tu sais, Bill Murray et Harold Ramis avant, je pense que c'est sur le plateau là, de Groundhog Day, là, le jour de la marmotte. Éventuellement, tu sais, je veux dire, ils ont eu un différend, puis ils se sont pas parlé là, pendant plusieurs années, là, puis ça a fini là, genre quelques jours ou quelques semaines avant la mort de Monsieur Ramis, où ils se sont réconciliés. Et puis, dans le fond, c'est probablement pour ça, en bout de ligne aussi, que Bill Murray aussi, il voulait pas. Ben, il voulait rien savoir là, de retourner sur un plateau de Ghostbusters parce que il voulait pas voir Monsieur Ramis. Mais là, c'est sûr que t'sais, quand on arrive à la fin, j'imagine que. Il y a des affaires qu'il faut pardonner. Là, t'sais. Ça, je peux comprendre ça. Puis, c'est pour ça, j'imagine que c'est. Qu'on a le film à cause de ça, je pense qu'on ne l'aurait peut-être pas eu quand même. Si mettons, M. Ramis ne serait pas décédé, ben peut-être qu'on n'aurait pas eu de film, là. Mais c'est ça, t'sais, Bill Murray va passer des petits commentaires. T'sais, j'aurais dû aller te voir pareil, buddy. Un genre de passe de même, tout ça. T'sais, on dirait que c'est comme des commentaires t'sais, qui vont à deux sens en réel, puis dans le film aussi. Puis aussi dans le côté. Mais. Tu sais, juste la passe où ce que tu sais qui Phoebe puis sa mère ils disent qu'ils sont des Spengler. Trevor aussi là puis là tu sais Venkman arrive et dit ah ben tu sais on a tous nos problèmes quelque chose en même là tu sais juste un peu pour narguer un peu mais tu sais je trouvais ça le fun hein, quelque part toutes ces scènes là on presse beaucoup la nostalgie puis je répète beaucoup ça parce que c'est quelque chose qui est un peu c'est forcé. Tu sais, c'est comme. Ça vient me. Ça me gratte, là. Tu sais, à quelque part. Je trouve ça. Tu sais, je suis touché émotionnellement. Ça je peux le dire. Que je trouve ça le fun. Mais je trouve qu'il force. Tu sais, il s'arrange pour tirer les larmes. Tu sais, je pense que j'ai jamais pleuré, là. Honnêtement, ça m'a jamais tiré une larme là, dans tous mes 4 ou 5 visionnements du film. Là, je veux dire, j'ai jamais versé une larme. Mais je trouve qu'il force trop, tu sais. Mais c'est bien réussi. Je sais qu'il y a comme un paradoxe dans tout ce que je viens de dire, mais c'est bien filmé, c'est bien, tu sais, toute la mise en scène est correcte, toute l'histoire est correcte, tout a bien marché, mais c'est comme trop monté pour être nostalgique, là. Tu sais, je veux dire, je simplifie ça de même, puis à quelque part, ben, tu sais, ça se sent aussi, là. Fait que, tu sais, ils l'ont fait, tout ça, puis je trouve que c'est ça, ils voulaient un peu trop pour arriver à la nostalgie. Fait que le film finit pas mal à cette scène-là. Fait que on se transpose à New York, où ce qu'on entend finalement là, la chanson là, de Ray Park Jr. Je voudrais noter aussi, c'est vrai, la musique, là, j'en ai pas parlé là, pendant tout le film. Là, la musique là, qui est par Simon Rob Simonson, que lui... ben, on va avoir repris là, techniquement là, le thème là, de Elmer Bernstein là, que lui avait fait comme son thème là, de Ghostbusters. Il va prendre beaucoup la trame sonore du premier film. Ironiquement, je trouve qu'il va bien reprendre tous les thèmes puis bien les utiliser dans le film. Je trouve qu'ils sont bien placés à chaque endroit. Ce que je vais reprocher beaucoup à la trame sonore, c'est qu'il manque d'originalité. C'est, on prend toute la même... le même thème, là, de genre, tu sais, dans le fond, que vous entendez à la fin du podcast, là, quand je fais ma conclusion, là, ben, c'est ce thème-là, puis qui est tout le temps, je veux dire, c'est comme il est tout le temps remixé d'une telle manière, ça fit tout le temps, c'est bien fait, mais elle n'a pas son thème. Normalement, la plupart des compositeurs qui viennent revisiter le travail de quelqu'un d'autre vont des fois rapporter le thème original de la franchise, puis c'est normal, mais ils vont aussi recréer quelque chose. Puis dans le film aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle création. Ils vont reprendre tous les thèmes qui ont été apportés, là, les thèmes de Zool, puis des affaires de même là, qu'on a entendu dans le premier film. Les tunes de fin, tout ça, tout ce qu'on a entendu dans la trame sonore du premier film, elle va tout revenir au complet. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose là, qui était passé à côté, mais c'est essentiellement un remix de la trame sonore du film original. Mais c'est ça, fait que finalement, ben, à la toute fin, au lieu d'avoir comme après l'ouverture, des fois, les trois derniers films ont toujours passé avec la chanson là, des Ghostbusters, puis après ça, ben, on transférait là, avec l'histoire. Là, c'est ça, au début, on n'a pas fait ça là, dans le film aujourd'hui. On transfère là, on a la toune thème à la toute fin. Je pense que c'est la version originale. Puis après ça, ben, tu sais, on en coupe avec des scènes, ben, pas des scènes supprimées, là, mais des scènes pas génériques. C'est là qu'on a notre caméo là, de Sigourney Weaver. Ben, c'est quand même drôle, hein, parce que la manière que c'est fait, c'est qu'on voit toutes les personnes génériques, toutes les personnes qui ont apparu dans le film. Là, tu sais, on voit Bill Murray, on voit Ernie Hudson, on voit Dan Aykroyd, puis tout d'un coup, on voit Sigourney Weaver, puis on fait comme, hein, t'es peu, on n'a pas vu Sigourney Weaver. Puis là, ben, tout d'un coup, bam, on voit Sigourney Weaver en plein visage. Fait que, tu sais, dans le fond, on a retrouvé un caméo. Pareil dans le générique, comme dans le film de 2016, on cherchait une manière de la porter comme caméo. Puis ils sont en train de refaire la scène du premier film où ce que Venkman est en train là, d'électrocuter là, le gars. Là, puis sa scène d'introduction, c'est un petit peu... ben, je trouve qu'il y avait comme rien à faire. C'était un rappel inutile. Il voulait trouver une manière de ramener Sigourney Weaver. J'ai aucune idée si, mettons, elle va être là la semaine prochaine. J'ai une surprise là-dessus. J'aimerais ça qu'elle fasse partie là, du film, puis pas juste en caméo. J'aimerais ça qu'il y ait un rôle pour elle et pas sur le poster. En tout cas, j'ai pas... j'ai regardé le poster, j'ai regardé le visage. Me semble qu'il est pas là, mais sans trop les analyser, je pense que, tu sais, podcast, puis tout le monde est là, je pense. Mais, tu sais, j'ai pas essayé de relier trop le monde. Je veux dire, j'ai vu Paul Rudd est là, Bill Murray, puis Ernie Hudson est là, Dan Aykroyd, OK, sont là, puis Annie Potts aussi qui est là, mais... C'est ça, j'ai pas vu Sigourney Weaver, j'ai vu Slimer, j'ai vu désolé là, je veux dire si vous avez pas vu aucun poster ben tu y a plusieurs posters aussi là. On a l'autre poster où ce qu'on voit juste l'Ecto 1 de derrière tout ça. Mais bon, c'est pour ça aussi j'écoute pas les bandes annonces, fait que je c'est ça. Fait que bon, après ça, on a l'après-générique où, que, dans le fond, on a une scène supprimée du premier film, puis que Janine, elle a donné un genre de médaillon, puis après ça, que finalement, elle a encore ce médaillon-là, puis après ça, elle va voir, voyons, Winston, puis que Winston, lui, dans le fond, on a appris qu'il était rendu genre un grand vendeur immobilier, quelque chose de même, puis que finalement, ben, t'sais, il rachète la caserne, puis que finalement, ben, c'est ça, t'sais, il ramène la Ecto 1, puis que dans le fond, qu'on voit qu'ils vont reprendre du service, là. Dans le fond, le film finit, puis il y a comme une lumière flash, qui flash rouge, j'imagine que ça veut dire il y a quelque chose. Je sais pas si les fantômes ont été gardés, là, dans le sous-sol de la caserne, là, je veux dire, s'il y a quelque chose, mais bon. Ça nous laisse savoir qu'on va avoir un prochain film, tout ça. Ben, t'sais, si le film, bien sûr, fait de l'argent, là. Mais t'sais, le film est sorti là, dans la COVID. Fait que t'sais, dans le fond, on savait que ça allait être un hit ou pas un hit, tout ça. Mais bon, on va en reparler là, dans quelques minutes de toutes les récoltes de ça. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, le film là, est plein là, de fin, puis t'sais, comme juste pour comme préparer là, pour une suite. Puis c'est ça. Fait que le film finit de même. Fait qu'en conclusion, le film, tu sais, je vais lui donner un verre. Tu sais, honnêtement, j'aurais pas été trop sûr là, en finissant là, mon podcast avec Christophe sur Fantastica. J'aurais pas été trop sûr d'y donner un verre. Là, je vais lui donner un verre. Tu sais, peut-être avec un peu de jaune, je trouve que. Non, peut-être pas sans jaune, mais il va être vert. Mais c'est juste que. Ce qui est plate, c'est qu'il force vraiment la nostalgie. Puis, tu sais, oui, il y a des affaires qui me grattent un peu là, à mi-chemin du film, où ce que la Ecto qui se promène dans les champs et tout ça. Mais honnêtement, ce qui me garde quand même dans le film, c'est le personnage de Phoebe puis de podcast. Tu sais, honnêtement, je trouve qu'ils font le film puis ils sont le fun à suivre. C'est pour ça que j'embarque dans cet univers-là qu'on a créé. Puis c'est un univers spécifique, je pense, à Afterlife ou à l'au-delà, là, si vous préférez, ou c'est l'héritage, je pense, là, version française. Mais c'est ça, tu sais, j'ai la misère un petit peu des fois de le connecter avec le film original. Tu sais, en fait, l'histoire, tout ça, ça connecte, mais t'sais, on n'a pas le même film là. T'sais, on a un film différent. C'est peut-être un meilleur film d'un côté de point de vue réalisation. T'sais, on a Ivan Reitman qui est quand même producteur, dans le fond, qui aide son fils, dans le fond, à la réalisation. Mais Monsieur Reitman est décédé genre 2 mois là, après la sortie du film, là, ben sortie officielle. Ils l'ont projeté en salle là, au milieu de l'été, mais finalement il est sorti officiellement là, au mois de novembre, quelque chose de même. Puis au mois de janvier, on l'avait déjà sorti à la maison. Là. T'sais, c'est un temps de COVID. T'sais, le film a coûté quelque chose comme 75 millions à faire. Il a rapporté 200 millions en salle. Il aurait probablement rapporté beaucoup plus si on n'était pas en temps COVID. Mais c'est ça, fait que c'est ce que c'est en bout de ligne. Il a rapporté d'argent, puis c'est sûr que tu sais, on était au bon milieu de la COVID. On était, je pense, le deuxième hiver, je pense, dans le fond, là, entre 2021 et 2022, là, on était enfermé. Puis c'est ça. Ben, tu sais, regarde, c'est pour ce que c'est, là, c'est un film qui est bon. Mais c'est ça, tu sais, ça va quasiment dépendre du prochain film, honnêtement. Puis j'imagine qu'il va avoir ça va devenir une trilogie. Tu sais, j'ai parlé là, de Rocky et Creed, puis j'ai l'impression que ça va être ça, dans le fond, le Frozen Empire. Ça va être le Creed 2 de Ghostbusters, où ce qu'on va ramener en force Bill Murray puis Ernie Hudson. Puis, tu sais, dans le fond, on va devenir... Tu sais, Creed 2, c'était celui-là qui avait Drago dedans. On venait vraiment comme embrasser tout l'univers de Rocky et de Creed. On fusionnait les deux univers ensemble, puis on faisait le film ultime de croiser des deux. Puis c'est ça, je pense, qu'on va faire avec Frozen Empire. T'sais, on va comme vraiment mélanger. Est-ce qu'on va tuer les personnages? Ça, honnêtement, j'en doute. Ça me surprendrait qu'on décide de dire, bon, là, Bill Murray, là, on est tanné d'attendre après lui, on va le descendre. Ça me surprendrait bien gros de ça, mais peut-être que les producteurs aimeraient ça. Probablement que même Bill Murray aimerait ça. Mais je pense pas qu'on va le faire. C'est comme notre personnage principal, peut-être, là, du premier film. Peut-être que ça ne l'est pas. Là. En tout cas, je veux dire, c'est une question que je me suis posée un petit peu, là, pas mal tout le long. Mais honnêtement, je pense que je pense que c'est le personnage principal en bout de ligne. Là, vous pouvez me le dire que si vous pensez que ça ne l'est pas. Là, mais je pense que sans Bill Murray, c'est pas la même affaire, honnêtement. J'aime bien Dan Aykroyd puis Ernie Hudson, mais c'est ça, t'sais, c'est pas, ils sont pas Bill Murray, ils rajoutent pas le star power peut-être, mais c'est ça, je pense que Ernie Hudson serait prêt à revenir n'importe quand quand même, là, mais malgré toutes les manières qui ont été traitées là, dans toute la franchise, puis je serais pas surpris qu'en bout de ligne ils s'arrangent pour mettre l'emphase sur Winston, que il y a tout le temps eu le short shift là, en bout de ligne, là, qui a toujours été comme collé à l'histoire. Okay? Je serais pas surpris qu'il essaye de comme corriger ça. Puis tu sais, qu'il nous fasse même un clin d'œil à ça pendant le film, parce que c'est ce qu'il essaie de faire aussi là, avec le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça. J'ai l'impression que ça va être ça, honnêtement. On va essayer de fusionner. Puis peut-être que même le troisième de cette trilogie-là n'aura aucun Ghostbuster original. Je pense que c'est ça. On va mettre le paquet, puis après ça, ben, on va se retirer au complet pour essayer de partir une franchise qui va être plus qu'une trilogie. Ça va rester à savoir, parce qu'à quelque part, éventuellement, comme que Creed devait éventuellement se départir de Rocky, ben je pense aussi que Ghostbuster doit éventuellement essayer là, de laisser le passé derrière lui et partir de l'avant. Puis, le film d'aujourd'hui, je me demande s'il n'aurait pas été plus fort, s'il n'aurait pas essayé de justement enlever la nostalgie puis essayer d'aller de l'avant. Tu sais, c'est là un peu mon problème. J'arrête pas de parler de la nostalgie à la toute fin. On va essayer de recopier un peu la fin du film, tout ça, du film de 84. Puis c'est là qu'il perd un peu ses jambes parce que il essayait de construire quelque chose, puis là, tout d'un coup, il arrive, bon, ben, tu sais, il faut forcer les affaires de Gazer, puis tout ça. Puis peut-être que ça aurait été mieux qu'il ait carrément un nouvel ennemi. Tu sais, je veux dire, ça aurait été répétitif, ça aurait été comme, bon, ben, encore un autre Viggo qui revient, puis tout ça, puis qu'on n'aura jamais entendu parler par la suite, tout ça. Mais bon, si c'est ça, c'est ça. À quelque part, il n'y a pas de. Je pense que, tu sais, même dans le premier film, Gozer arrive à la fin. Tu sais, oui, il y a tout le temps un peu l'histoire au travers avec Dana et tout ça, mais il y aurait un moyen de faire une nouvelle histoire avec... excusez, je baille quelques... il commence à être très tard, là. excusez, ça en tout cas, je veux pas vous endormir. Mais c'est ça. Fait que... il y aurait eu moyen là, de, je pense, de au pire apporter un nouvel adversaire. Puis au pire, justement, repenser tout, puis amener Gozer à la toute fin de cette nouvelle trilogie-là ou quelque chose. Là, moi, je suppose une trilogie, c'est peut-être pas une trilogie, c'est peut-être le quatrième film tout court, puis après ça, on va faire un 5, puis un 6, puis un 7, puis un 8, jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Mais c'est ça, honnêtement, là, je pense qu'on est bien parti. Mais c'est comme un peu peut-être le chapitre décisif dans le prochain film. Est-ce qu'on va pouvoir... Excusez-moi. il s'en vient vraiment tard. Là. Mais ça va être le chapitre décisif là, dans le prochain film. Puis on va pouvoir juger là, par les retombées de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'avenir de ça? Puis moi, je serais prêt en quelque part, là, en les voyant aujourd'hui, puis en voyant, ben, tu sais, j'ai vu des photos, je veux dire, ils ne sont pas nécessairement beaucoup plus vieux, là, ils ont 3 ans de plus vieux que dans le film aujourd'hui, mais ils sont plus là, là. Tu sais, les gars, je veux dire, tu sais, ils viennent s'amuser, peut-être que même Bill Murray s'est amusé quand même, mais ça reste que c'est plus leur franchise éventuellement, tu sais, ils doivent passer le flambeau. Je sais pas si je veux voir vraiment là, un Bill Murray passer là, ou un Ernie Hudson qui sont trop vieux puis qui apparaissent juste pour venir chercher un chèque ou t'sais, qui viennent venir juste faire un clin d'œil. T'sais, je suis pas fort là-dessus, honnêtement. Juste pour qui viennent faire du fan service, je suis pas très fort là-dessus. Comme vous savez, là, en général, là, ça arrive, mais pas souvent. Là, fait que. Bon, fait que c'est ça, la semaine prochaine, ben, on va parler de Frozen Empire. J'ai hâte, pareil, de voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que, tu sais, ça, toute la gang est là. Annie Potts est là. Puis c'est ça, ça reste. Est-ce que Sigourney Weaver, elle va être là? Ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Puis, est-ce que Rick Moranis pourrait être là? Ça, j'aimerais ça aussi. Tu sais, si maintenant, ça pourrait être le dernier film... Pour clôturer tout au complet, on pourrait avoir Rick Moranis. Ça serait magique, honnêtement. Je pense que s'il pourrait arriver et tout fermer ça ensemble, là, ça serait merveilleux. Là. Mais bon, fait qu'on verra bien la semaine prochaine. J'imagine qu'ils vont trouver une manière là, de rendre hommage à Egon aussi. Mais c'est ça. Fait que, excusez-moi, là, ça va être rendu la fin pour de vrai. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont-tu le ramener en. Je pense pas qu'ils vont en faire plus. Là, le ramener en fantôme, en cadavre. Je pense pas. Je pense que le temps s'est fait. Tout ça, ils ont comme fait la clôture à la toute fin. Vont trouver une manière d'y rendre hommage, mais ça va être subtil. Puis je pense pas qu'on va passer là, plus que 5 secondes dessus. Là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, Frozen Empire. Si mettons vous êtes nouveau au podcast, vous n'avez pas écouté dans le fond les 3 premiers épisodes là, de Ghostbusters, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous avez sauté à Afterlife. Ben en tout cas, peut-être que vous étiez trop jeune pour en 1984 et c'était votre premier Ghostbusters, je ne le sais pas. Mais bienvenue au podcast. Si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur plusieurs autres franchises qui ont passé le temps, qui ont été réinventées aussi dans les ères modernes, comme Terminator, où qu'on a eu un il y a quelques années, on a eu un Rambo il y a quelques années. On a eu des X-Men, on a toute la franchise de DC. Vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast de toute façon pour trouver toutes les franchises, tous les films qui ont été faits, parce qu'il y a quand même, je pense, une trentaine de films que j'ai fait aussi qui ne sont pas franchisés ou qui sont franchisés, mais dans un seul podcast. Vous allez pouvoir tout trouver ça là, sur le site internet du podcast à premiervisionnement.com, que vous pouvez suivre aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. En même temps, ben, si vous m'aimez tout seul, ben, peut-être que vous m'aimeriez en duo avec Steven du podcast Cinérum, où ce que on parle de Superman dans la série Smallville de la série qui a passé là, de 2001 à 2011, où ce que on s'amuse dans le fond là, à parler de chaque épisode un par un pendant les 5 prochaines années, quelque chose de même, pour parler là, des 217 épisodes. Et de plusieurs, si mettons vous faites partie de notre Patreon, ben on fait plusieurs bonus. On a parlé là, de l'homme d'acier, puis on a parlé aussi là, du film animé là, Superman Red Son dernièrement. Fait que on vous invite à nous suivre sur notre Patreon. Sinon, ben, on a un feed régulier aussi, là, que dans le fond, les épisodes sortent là, à chaque 2 semaines. Donc, d'ici le prochain épisode, si maintenant vous avez un problème de fantôme, vous savez qui appeler.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film.
You have been a bad monkey.
Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com.
We got one!
Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Podbean, Google Podcasts, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour trois films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode.
We need something that everyone in this town can get behind. We need a symbol.
Something that appeals to the best in each and every one of us.
Something good. Something decent.
Something pure.
I love this town!
Bienvenue à Somerville. Aujourd'hui, on parle de... Bienvenue à Somerville. Aujourd'hui, on parle de... Bienvenue à Somerville. Aujourd'hui, on parle de SOS Fantôme, l'au-delà, sorti en 2021 et réalisé par Jason Reitman, avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace et Paul Rudd. Je suis Mathieu et... Je fais partie de ceux qui n'ont pas dépassé le VHS.